des livres plein les oreilles. Salut tout le monde, à vous toutes et vous tous qui nous écoutez via Canal M qui produit cette émission des livres plein les oreilles ou encore via CKVL ou encore sur le web. Alors, on le connaît bien au Saguenay pour ses chroniques au quotidien. Le quotidien, vous savez, c'est comme ça qu'il s'appelle, le quotidien de la région. Si tant est qu'il existe encore, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont disparu, mais en tout cas, il était chroniqueur là. Alors, on avait bien hâte de lire son premier roman. Eh bien, le voici, ça s'appelle « Comme un long accident de char » de Joël Martel. Et celui qui a eu la chance de le lire, c'est le comédien Patrick Yvon, qui n'a pas accepté de nous parler de cette expérience. En fait, je n'ai pas eu de retour d'appel, mais je l'avais invité, Monsieur Yvon, et puis, bon, je n'ai pas eu de nouvelles. Ensuite, on va se remettre en mémoire « Petit pays » de Gaël Faye, ce petit pays, le Burundi, pays malmené par l'histoire. Le classique du jour sera Proust, mais pas à la recherche du temps perdu, mais bien sur la lecture qu'on peut entendre gratuitement, notamment sur YouTube, lu par André Dussolier. C'est du bonbon à nos oreilles. Gérald Cousineau a lu pour nous « Tu as promis que tu vivrais pour moi ». Il nous en parle et nous finissons l'émission en beauté avec une nouveauté signée Jean-Baptiste Andrea. En fait, c'est un livre qui est déjà, il est paru il y a 2 ou 3 ans, mais là, il vient d'être lu par, ça a été produit par Lizzie. Vous savez, c'est lui qui nous a donné Veiller sur elle, prix Goncourt 2023, et cette fois-ci, il est question de des diables et des saints. Mais d'abord, cette nouvelle plume de roman et cette nouvelle voix reconnaissable entre toutes.
Chapitre 1. J'étais nu dans la douche en train de m'essuyer avec une serviette quand Julie a ouvert la porte de la salle de bain. Je me souviens que lorsque la porte s'est ouverte, j'étais précisément en train de m'essuyer l'entrejambe. Pour être bien franc avec vous, je m'attendais à ce que Julie m'annonce que mon père venait de mourir, mais à ma grande surprise, il était seulement sur le bord de mourir. Julie a refermé la porte de la salle de bain et je me suis habillé en vitesse, un peu comme lorsqu'on est en retard au cinéma, sauf que là, on s'en allait voir mon père mourir.
Alors cette voix, vous la connaissez si vous êtes des fidèles du petit écran et du grand écran, c'est celle de Patrick Yvon, lisant « Comme un long accident de char » de Joël Martel, édité par La Mèche, tout ça enregistré au studio Bulldog. Nous sommes à l'aube du grand départ de son père et Joël Martel se remémore ses morts. Alors, comme tout un chacun, évidemment, on a tous connu le deuil de membres de quelques-uns de nos familles respectives et de quelques amis aussi. Et on peut témoigner, ben, lui en tout cas, il le fait, il témoigne vraiment tendrement de sa triste expérience avec ce deuil qui le frappe, celui du père disparu. C'est une langue parlée truffée de perles d'esprit et de cabotinage, nous dit-on. Martel nous raconte sa vie dans le désordre pour tenter de donner du sens aux grandes disparitions qui hantent nos vies. Ce faisant, il livre un hommage émouvant à son père. Quant à Patrick Yvon, écoutez, si peut-être qu'au cinéma vous l'avez vu dans « À l'origine d'un cri », peut-être que vous l'avez vu dans « Les mauvaises herbes » ou encore dans « Les affamés »,« La femme de mon frère », dans quoi est-ce qu'il a joué aussi babysitter, en tout cas il est là beaucoup, au petit écran il est là encore plus, 30 vies, trauma, l'échappée, fait divers, l'œil du cyclone, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, etc., etc. Bref, c'est quelqu'un qui est très en demande avec cette voix très surprenante qu'on va réécouter pour un deuxième extrait un peu plus long, celui-ci, de « Comme un long accident de char » de Joël Martel.
Chapitre 2. Il me semble que c'est en entendant ma mère descendre les escaliers à toute vitesse que je me suis réveillé. Au rez-de-chaussée, il y avait ma grand-mère qui faisait des drôles de bruits, un peu comme si elle parlait la bouche pleine de guimauve. Puis, lorsque ma mère a explosé en sanglots, j'ai aussitôt compris que quelque chose clochait. J'ai donc bondi à mon tour dans les escaliers et, quand je suis arrivé en bas, ma mère était là, complètement paniquée, tandis que mon grand-père était désemparé devant ma grand-mère qui avait le visage tout tordu en émettant des sons tristement burlesques. Je vais vous avouer que du haut de mes 10 ans, la scène foutait quand même un peu la trouille. Quelques heures plus tard, toute la famille s'est réunie à l'hôpital et c'était comme à la fin d'un film, vous savez, quand tout le monde a eu une bonne frousse, mais que finalement, tout est bien qui finit bien. Ma grand-mère ressemblait à cette fameuse personne dont le visage a figé pendant qu'elle s'amusait à faire des grimaces. Mais les docteurs nous avaient assuré qu'elle se rétablirait rapidement. Tout le monde est donc reparti à la maison et, alors qu'on s'imaginait que le générique de fin était en train de rouler, c'était en fait le dernier bloc de publicité avant le dévoilement du cliffhanger, cette nouvelle intrigue qui vous rendra impatient de découvrir le prochain épisode. Dans ce cliffhanger, voilà que le lendemain matin, je me réveillais, soulagé que les événements de la veille aient finalement pris une bonne tournure. J'ai alors entendu ma mère qui parlait au téléphone et qui semblait avoir été soufflée par une onde de choc. Et hop, le premier épisode de ce qui allait devenir une longue série s'est terminé avec ma mère qui m'a annoncé que grand-maman avait eu 2 autres crises dans la nuit et que là, elle s'était enfermée dans son corps. Je vous cacherai pas que la première fois que j'ai vu ma nouvelle grand-mère, ça m'a vraiment donné la poisse. La grand-maman que j'avais toujours vue avec un tablier, en train de cuisiner simultanément 5 recettes tout en parlant de la vie et du beau temps, était couchée dans son lit d'hôpital, incapable d'articuler le moindre mot, le visage figé dans une grimace de détresse, avec toute la tristesse du monde dans son regard. Ça me fout un peu le cafard d'écrire ça, mais je pense parfois à elle quand mon chien essaie de me parler. On sait qu'il y a une montagne d'émotions dans ces sons qu'on ne peut pas décoder. Chaque soir, ma mère partait à l'hôpital avec mon beau-père Michel et ils allaient passer 1 heure avec ma grand-maman paralysée. Au début, j'y allais souvent, mais au fil du temps, mes visites se sont espacées. C'était un peu toujours la même chose. On arrivait, on saluait joyeusement ma grand-maman et aussitôt qu'on l'apercevait dans son lit, c'était comme si la scène était radioactive de tristesse. Un gars en surdose de Prozac aurait fini par songer à s'offrir une sortie à la Mike Brent. On était autour de ma grand-maman à se partager des anecdotes pour tenter d'alléger l'atmosphère, mais il était impossible d'échapper à la réalité. Chaque seconde passée à ses côtés nous rappelait qu'elle était piégée à nous regarder sans pouvoir faire ou dire quoi que ce soit. La mort, mais en version démo sur une disquette que t'achètes à la tabagie. Ça a duré comme ça pendant des semaines et des mois. Je crois qu'au début, on avait encore espoir que la situation se rétablirait, mais il y a eu d'autres crises et ça n'allait jamais en s'améliorant. Cette année-là, j'avais demandé un Game Boy pour Noël et chaque fois que ma mère allait rendre visite à ma grand-mère, je tentais de déballer mes cadeaux incognito pour voir si j'allais recevoir mon Game Boy. C'était là une opération très délicate, étant donné que les présents étaient emballés par Michel, l'amoureux de ma mère. Le gars, il excellait dans le suremballage et le paquet que je suspectais de contenir mon Game Boy a probablement été sa Joconde.
La voix de Patrick Yvon lisant un extrait de « Comme un long accident de char » de Joël Martel, c'est une nouveauté du Québec. Une petite pensée pour le Burundi et pour ce qui s'est passé dans les années 90 avec Gabriel. En 92, Gabriel a 10 ans, il vit au Burundi avec son père français qui est entrepreneur et sa mère est rwandaise. Sa petite sœur Anna aussi est là. Ils sont dans un confortable quartier d'expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains. Bon, en tout cas, c'est une enfance paisible. Mais à un moment donné, Gabriel voit avec inquiétude ses parents qui se séparent, la guerre civile qui se profile et c'est suivi par le drame rwandais que l'on connaît. Le quartier est bouleversé, évidemment, le monde entier d'ailleurs l'est, mais plus précisément au Burundi, par exemple, les vagues successives de violences... c'est la violence, voilà, que l'on voit arriver. Et puis, ben, on l'a encore hein, dans les yeux. C'était pas seulement au Rwanda. Ces images terribles, voyez-vous, qui me troublent encore du reste. Alors, lui, il écrit Gaël Faye parce que c'est à Gaël Faye que l'on doit ce bouquin, un bouquin qui a reçu je ne sais plus combien de prix, notamment le prix Audiolib en 2017. et le Goncourt des lycéens en 2016. Il dit, Gaël Faye, au sujet de Petit Pays, dont on va entendre un extrait, « J'ai écrit ce roman pour faire surgir un monde oublié, pour dire nos instants joyeux, discrets comme les filles de bonne famille. J'ai écrit ce roman pour crier à l'univers que nous avons existé avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu'à le rester avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d'exilés, de réfugiés, d'immigrés, de migrants. »
Tu n'y trouveras rien, à part des fantômes et un tas de ruines, ne cesse de me répéter Anna, qui ne veut plus jamais entendre parler de ce pays maudit. Je l'écoute. Je la crois. Elle a toujours été plus lucide que moi. Alors je chasse cette idée de ma tête. Je décide une bonne fois pour toutes que je n'y retournerai plus. Ma vie est ici, en France. Je n'habite plus nulle part. Habiter signifie se fondre charnellement dans la topographie d'un lieu, l'enfractuosité de l'environnement. Ici, rien de tout ça. Je ne fais que passer. Je loge, je crèche, je squatte. Ma cité est dortoir et fonctionnelle. Mon appartement sent la peinture fraîche et le linoléum neuf. Mes voisins sont de parfaits inconnus. On s'évite cordialement dans la cage d'escalier. Je vis et travaille en région parisienne. Saint-Quentin-en-Yvelines, RERC, une ville nouvelle, comme une vie sans passé. Il m'a fallu des années pour m'intégrer, comme on dit. Avoir un emploi stable, un appartement, des loisirs, des relations amicales. J'aime faire des rencontres sur Internet. Des histoires d'un soir ou de quelques semaines. Les filles qui sortent avec moi sont toutes différentes, plus belles les unes que les autres. Je m'enivre à les écouter parler d'elles, à sentir le parfum de leurs cheveux, avant de m'abandonner totalement dans le coton de leurs bras, de leurs jambes, de leur corps. Aucune d'entre elles n'oublie de me poser la même question lancinante, toujours au premier rendez-vous, d'ailleurs. De quelle origine es-tu ? Question banale, convenue. Passage quasi obligé pour aller plus loin dans la relation. Ma peau caramel est souvent sommée de montrer patte blanche en déclinant son pédigré. Je suis un être humain. Ma réponse les agace. Pourtant, je ne cherche pas à les provoquer, ni même à paraître pédant ou philosophe. Quand j'étais haut comme trois mangues, j'avais déjà décidé de ne plus jamais me définir. Elles me prennent pour un original. Je ne les amuse qu'un temps. Il m'obsède, ce retour. Je le repousse, indéfiniment, toujours plus loin. Une peur de retrouver des vérités enfouies, des cauchemars laissés sur le seuil de mon pays natal. Depuis 20 ans, je reviens, la nuit en rêve, le jour en songe, dans mon quartier, dans cette impasse où je vivais heureux avec ma famille et mes amis. L'enfance m'a laissé des marques dont je ne sais que faire. Dans les bons jours, je me dis que c'est là que je puise ma force et ma sensibilité. Quand je suis au fond de ma bouteille vide, j'y vois la cause de mon inadaptation au monde. Ma vie ressemble à une longue divagation. Tout m'intéresse, rien ne me passionne, il me manque le sel des obsessions. Je suis de la race des vautrés, de la moyenne molle. Je me pince, parfois. Je m'observe en société, au travail, avec mes collègues de bureau. Est-ce bien moi, ce type dans le miroir de l'ascenseur ? Ce garçon près de la machine à café qui se force à rire? Je ne me reconnais pas. Je viens de si loin que je suis encore étonné d'être là. Mes collègues parlent de la météo et du programme télé. Je ne les écoute plus. Je respire mal. J'élargis le col de ma chemise. J'ai le corps emmailloté. J'observe mes chaussures cirées. Elles brillent. Me renvoient un reflet décevant. Que sont devenus mes pieds? Ils se cachent. Je ne les ai plus jamais vus se promener à l'air libre. Je m'approche de la fenêtre. Le ciel est bas. Il pleut un crachin gris et gluant. Il n'y a aucun manguier dans le petit parc coincé entre le centre commercial et les lignes de chemin de fer.
C'est vraiment magnifique ce texte, ces mots, Petit pays de Gaël Faye, et c'était lu par lui-même Gaël Faye. Vous trouvez ça également bien sûr sur tous les catalogues de livres audio. Le classique du jour, ce sera du Proust, mais en fait au départ c'est pas un livre, au départ c'est une préface que Proust avait écrit en 1905 précisément pour un livre de John Ruskin qu'il avait traduit, qui s'appelait De Sésame et Lilis. Et à l'époque, tout le monde était tombé d'accord pour dire que la préface était bien meilleure que le bouquin en tant que tel, d'où l'idée d'Actes Sud d'en faire un petit ouvrage, tout ce qu'il y a de plus délicieux, d'autant plus qu'il existe en version audio, lue par la voix de velours de André Dussolier. Alors, comment se souvient-on de nos lectures ? C'est le thème. En se remémorant ces lectures d'enfance, Proust revit les déjeuners et les goûters qu'il a partagés avec sa famille, avec ses amis, avec ses camarades. Et il revoit le cadre aussi de ses agapes et surtout cette recherche des lectures perdues qui fait revivre ces personnes et ces lieux. Car entre deux agapes, entre deux soupers, entre deux goûters, le héros de ce livre ne fait que ça, lire, lire, lire. Extrait André Dussolier de Sur la lecture qu'on peut trouver sur YouTube gratuitement.
L'heure passée. Souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient pris par mes églises, ou ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là, ayant à écrire. Ils disaient bien « Je ne veux pas te déranger », mais commençaient aussitôt à s'approcher du feu, à consulter l'heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas mal accueilli. Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avance à table, à leur place. Cela, c'était la désolation, car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants, allait faire croire qu'il était déjà midi, et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner. » Tout était prêt. Le couvert était entièrement mis sur la table, où manquait seulement ce qu'on apportait qu'à la fin du repas, l'appareil en verre où l'oncle horticulteur et cuisinier faisait lui-même le café à table, tubulaire et compliqué comme un instrument de physique qui aurait senti bon et où c'était si agréable de voir monter dans la cloche de verre l'ébullition soudaine qui laissait ensuite aux parois embuées une cendre odorante et brune. Et aussi la crème et les fraises, que le même oncle mêlait dans des proportions toujours identiques, s'arrêtant exactement au rose qu'il fallait avec l'expérience d'un coloriste et la divination d'un gourmand. Que le déjeuner me paraissait long. Ma grand-tante ne faisait que goûter au plat pour donner son avis avec une douceur qui supportait mais n'admettait pas la contradiction. Pour un roman, pour des vers, chose où elle se connaissait très bien, elle s'en remettait toujours avec une humilité de femme à l'avis de plus compétents. Elle pensait que c'était là le domaine flottant du caprice où le goût d'un seul ne peut pas fixer la vérité. Mais sur les choses dont les règles et les principes lui avaient été enseignés par sa mère, sur la manière de faire certains plats, de jouer les sonates de Beethoven et de recevoir avec amabilité, elle était certaine d'avoir une idée juste de la perfection et de discerner si les autres s'en rapprochaient plus ou moins. Pour les trois choses, d'ailleurs, la perfection était presque la même. C'était une sorte de simplicité dans les moyens, de sobriété et de charme. Elle repoussait avec horreur qu'on mît des épices dans les plats qui n'en exigent pas, qu'on jouât avec affectation et abus de pédale, qu'en recevant, on sortit d'un naturel parfait et parla de soi avec exagération. Dès la première bouchée, aux premières notes, sur un simple billet, elle avait la prétention de savoir si elle avait affaire à une bonne cuisinière, à un vrai musicien, à une femme bien élevée. Elle peut avoir beaucoup plus de doigté que moi, mais elle manque de goût en jouant avec tant d'emphase cette andante si simple. Ce peut être une femme très brillante et remplie de qualités, mais c'est un manque de tact de parler de soi en cette circonstance. Ce peut être une cuisinière très savante, mais elle ne sait pas faire le beefsteak aux pommes. Le beefsteak aux pommes, morceau de concours idéal, difficile par sa simplicité même, sorte de sonate pathétique de la cuisine, équivalent gastronomique de ce qu'est dans la vie sociale la visite de la dame qui vient vous demander des renseignements sur un domestique et qui, dans un acte si simple, peut à tel point faire preuve ou manquer de tact et d'éducation. Mon grand-père avait tant d'amour-propre qu'il aurait voulu que tous les plats fussent réussis et s'y connaissait trop peu en cuisine pour jamais savoir quand ils étaient manqués. Il voulait bien admettre qu'ils le fussent, parfois, très rarement d'ailleurs, mais seulement par un pur effet du hasard. Les critiques toujours motivées de ma grand-tante, impliquant au contraire que la cuisinière n'avait pas su faire tel plat, ne pouvaient manquer de paraître particulièrement intolérables à mon grand-père. Souvent pour éviter des discussions avec lui, ma grand-tante...
Eh bien oui, on a fait des ça, mais que voulez-vous ? On souhaiterait que cela ne s'arrêtât point, mais... Proust lu par André Dussolier, c'était un extrait de Sur la lecture que je rappelle que vous pouvez trouver en catalogue, mais si vous voulez l'avoir gratuitement, c'est sur YouTube aussi. La conjuration des imbéciles maintenant, ça c'est le livre audio de la semaine qui m'avait échappé, c'est sorti il y a maintenant un an exactement. C'est un livre dont une journaliste dans Les Inrecuptibles a écrit « On ne peut pas lire ce livre, l'un des plus drôles de l'histoire littéraire américaine, sans pleurer intérieurement tout ce que Toole n'a pas écrit. Il faut dire que Toole, né en 1937, n'a jamais trouvé d'éditeur de son vivant pour ses deux romans, « La conjuration des imbéciles » et « La Bible de Néon ». Persuadé qu'il était un écrivain raté, il s'est suicidé en 1969. Mais finalement, grâce à sa mère, on a réussi à publier ce livre-là, qui a même maintenant, qui est même en livre audio. Et en plus, on a remis à Toole le prix Pulitzer à titre posthume en 1981. Voici l'histoire d'Ignatius, un être physiquement répugnant, qui étale cette disproportion physique comme un trophée.
Passant d'une hanche sur l'autre à sa manière pondéreuse et éléphantesque, Ignatius, sous le tweed et la flanelle, envoya mourir contre des coutures et des boutons des vagues de chair ondulante. Ainsi réinstallé, il se prit à songer au temps considérable qu'il venait de passer à attendre sa mère. Mais il concentra son attention sur le malaise qu'il commençait à éprouver. Il semblait que son être entier fût sur le point d'exploser, l'arrachant à ses semi-bottillons de daim gonflé. Et comme pour le vérifier, Ignatius dirigea le regard de ses yeux singuliers vers ses pieds. Ces derniers semblaient bel et bien enflés. Il s'apprêtait à offrir le spectacle de ses souliers tumescents à sa mère pour preuve de l'insouciance avec laquelle elle le traitait. Levant les yeux, il vit que le soleil commençait à descendre sur le Mississippi, au bas de Canal Street. La pendule de Holmes indiquait presque 5 heures. Déjà, il peaufinait quelques accusations bien senties, dont les termes choisis avec soin étaient destinés à réduire sa mère au repentir, et à tout le moins à la confusion. Il lui fallait souvent la remettre à sa place. Elle l'avait conduit en ville, dans la vieille Plymouth, et tandis qu'elle consultait le médecin pour son arthrite, Ignatius avait fait l'emplette de quelques partitions chez Verlaine pour sa trompette et d'une corde pour son luth. Puis il était allé flâner devant les appareils à sous de la Penny Arcade de Royal Street pour voir si l'on n'avait pas installé de nouveaux jeux. Il avait été déçu de constater que le jeu de baseball miniature avait disparu. Peut-être était-il seulement en réparation. La dernière fois qu'il y avait joué, le batteur refusait obstinément de fonctionner et après quelques discussions, la direction lui avait rendu sa pièce de monnaie, bien que les employés eussent été assez mesquins pour suggérer qu'Ignatius lui-même avait cassé le baseball miniature en lui donnant des coups de pied. Concentrant toute son attention sur le sort du baseball mécanique, Ignatius détacha son être de la réalité physique de Canal Street et des gens qui l'entouraient. Aussi ne remarqua-t-il pas les deux yeux qu'il observait avidement depuis leur abri, derrière une colonne du grand magasin D.H. Holmes, deux yeux tristes, brillants d'espoir et de désir. Était-il possible de faire réparer la machine à la Nouvelle-Orléans? Probablement. Toutefois, il pourrait se révéler nécessaire de l'expédier à Milwaukee ou à Chicago, ou encore dans l'une quelconque de ces villes qu'Ignatius associait dans son esprit à l'efficacité d'innombrables ateliers de réparation et à la fumée éternelle des usines. Ignatius espérait bien que le baseball mécanique serait manipulé avec le plus grand soin au cours de son expédition, qu'aucun de ses petits joueurs ne serait ébréché ou estropié par de brutaux employés des chemins de fer bien décidés à ruiner pour toujours leur compagnie sous le poids des réclamations d'usagers lésés avant de se mettre en grève pour détruire Illinois Central. Tandis qu'Ignatius songeait aux délices que le petit jeu de baseball procurait à l'humanité, les deux yeux tristes et envieux se déplaçaient dans sa direction, fendant la foule comme deux torpilles filant à la rencontre d'un gros tanker à coque de tweed. Le policier tira sur le sac de partition d'Ignatius. « Vous avez des papiers d'identité, monsieur ?» demanda le policier d'une voix qui espérait qu'Ignatius fût dépourvu de toute identité officielle. « Quoi ?» Ignatius baissa les yeux sur l'écusson de la casquette bleue et ajouta « Qui êtes-vous ? »
« Montrez-moi votre permis de conduire. »«
Je ne conduis pas. Ayez l'obligeance de vous éloigner, j'attends ma mère. »«
Qu'est-ce qui pend à votre sac, là ?»«
Que voulez-vous que ce soit, imbécile ? C'est une corde pour mon luth. »«
Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Le policier recula d'un pas.
« Vous êtes d'ici ? »
« Est-ce bien le rôle de la police municipale de s'acharner dans des tracasseries contre ma personne, alors que notre ville est, au vu et au su de tous, l'une des capitales du vice du monde civilisé ?» beugla Ignatius au-dessus des têtes de la foule qui se pressait devant le magasin.
« Notre ville est célèbre pour ses joueurs professionnels, ses prostituées, ses exhibitionnistes, ses antéchrists, ses ivrognes, ses sodomites, ses drogués, ses fétichistes, ses onanistes, ses pornographes, ses fripons, ses coquines, ses vandales et ses lesbiennes, tous et toutes dûment protégés par la prévarication et le trafic d'influence. Si vous avez un moment, je suis prêt à entreprendre de débattre avec vous du problème de la criminalité, mais ne commettez surtout pas l'erreur de m'importuner, moi. »
Magnifique texte et puis magnifique lecture de Benjamin Jungers lisant un extrait de le livre de ce livre audio qui m'avait échappé, La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Au retour, Gérald Cousineau. À tout de suite. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Gérald Cousineau, dont vous pouvez aussi d'ailleurs apprécier la présence à Ami Télé, nous fait la joie d'une nouvelle chronique autour du livre de Karen Ponte. Tu as promis que tu vivrais pour moi. Au chapitre des nouveautés qui viennent toujours comme un point de suspension dans cette émission, je vais vous proposer aujourd'hui des extraits de « Des diables et des saints » de Jean-Baptiste Andréa. Oui, oui, celui qui nous a offert le prix Goncourt 2023 avec « Veiller sur elle ». Et puis un livre de la regrettée Gisèle Halimi, ardente défendresse de la cause féminine, qui nous laisse en héritage de nombreux bouquins, dont « Le lait de l'oranger », désormais en livre audio. Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde.
Un sujet douloureux au départ, mais un sujet finalement qui nous amène vers le bonheur assez rapidement, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ma première incursion dans l'œuvre de la Française Karen Ponte. Oui. Je souligne pour les gens qui ne la connaissent pas que Karen s'écrit avec un C et non pas avec un K. Okay. Donc Karen Ponte, c'est son deuxième roman. Et j'avais lu quelque part que les romans de Karen Ponte sont souvent classés dans ce que les Français je souligne, les Français appellent la littérature « feel good ».
Oui, oui, et ils l'écrivent à la française, hein. C'est-à-dire qu'ils l'écrivent « F-I-L-G-O-U-D-E ».
Oui.
Non, donc, mais c'est ça qui est drôle.
Qui fait du bien, si vous voulez. Donc, oh, ils sont imbattables.
Oui, je sais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Alors, tu as promis que tu vivrais pour moi, donc deuxième roman de Karen Pont, paru en 2017 quand même, elle en écrit plusieurs depuis. Elle écrit également des romans jeunesse. Donc, c'est quoi cette histoire-là? Eh bien, il y a deux jeunes femmes qui s'appellent Molly et Marie. Elles ont à peu près le même âge, une trentaine d'années. Or, Marie est très malade et va même mourir. Elle a ce que Molly appelle une saloperie de maladie. Donc, elle en meurt, mais avant de mourir, elle va faire promettre à sa meilleure amie Molly de vivre pour elle. En fait, de vivre pour toutes les deux. Et pour faire respecter cette promesse, elle va lui envoyer, et oui, après sa mort, Molly va recevoir par la poste un mystérieux paquet qui contient quoi? Ben, qui contient une douzaine d'enveloppes, une douzaine de lettres, une à ouvrir chaque mois. Alors, bien sûr, Molly va aller de surprise en surprise. Or, la première lettre qu'elle va ouvrir, c'est pour le mois de décembre. Et qu'est-ce que Marie lui demande de façon posthume? Eh bien, c'est d'acheter un vrai sapin de Noël. Bon. C'est la première chose qu'elle doit faire pour respecter la mémoire de son ami Marie.
D'accord.
Alors, okay. Elle va acheter un vrai sapin de Noël, et nous sommes à Paris, hein, quand même. Donc, ainsi, mais Marie, je le
précise. Oui, dans le métro, ça se voyage mal.
Oui, oui. Et Molly, je ne l'ai pas dit, mais Molly a fait des études en danse. Elle a déjà été un tira à l'opéra, donc elle a beaucoup aimé la danse. Et là, l'idée de redanser revient la hanter, mais... Ah. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette Molly? Il faut bien gagner sa vie. Elle est serveuse dans une brasserie.
Bon.
Et son copain, Germain, lui, est un comptable, très gentil, mais au Québec, on dirait qu'il est un peu drabe.
Oui,
vous connaissez le mot, Clotilde, drabe?
Oui, absolument,
donc,
oui.
Prévisible.
Oui, 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 oui. Oui, puis un peu flat, là, un peu...
C'est ça. Adorable, voilà. Oui, mais plate. Bon.
Ouais,
Jour, il va même demander Molly en mariage, mais... Molly n'est pas sûre d'être vraiment amoureuse de Germain.
Oui.
Donc, l'idée de se remettre à danser la hante, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on écoute l'extrait parce qu'on est tout de suite mis dans le bain, si je peux dire la
chose
ainsi.
Oui, absolument. Alors, allons-y.
Lorsque le réveil sonne, j'enfouis ma tête sous l'oreiller. Je n'ai jamais apprécié cet appareil spécialement conçu pour me sortir de la douce chaleur du sommeil. Mais ce matin, c'est pire que tout. Il me semble que je n'ai pas quitté mon lit depuis des jours. Je voudrais que tout ceci soit un cauchemar. Rien qu'un cauchemar qui me réveillerait en sursaut et me permettrait de réaliser que rien n'est vrai. Je voudrais de nouveau avoir 5 ans et m'en remettre à l'attrape-rêve que ma mère avait fixée au-dessus de mon lit. À l'époque, il me protégeait des monstres à une jambe et des sorcières chauves. Peut-être qu'aujourd'hui, il me défendrait aussi contre ça. La sonnerie retentit de nouveau. De rage, j'attrape le réveil et de rage, le balance à l'autre bout de la chambre. Le choc lui cloue le bec. Je refuse de me lever et d'affronter cette journée, parce que cela voudra dire que ma meilleure amie est définitivement partie. Et je ne veux pas lui dire au revoir. Pas dans une église gelée, remplie de gens en pleurs. Je ne veux pas que chaque vendredi soit jamais marqué par l'image d'un cercueil fermé. C'est au-dessus de mes forces. Je veux encore croire qu'elle et moi, on ira bientôt se balader ou au cinéma. Si je ferme les yeux, je vois distinctement son visage, ses cheveux courts, ses grands yeux marrons rieurs. Et si je me concentre, je suis sûre de pouvoir entendre son rire et sentir sa présence. Comment peut-on mourir à 31 ans? Qui peut manquer de cœur à ce point pour décider qu'une fille aussi géniale que Marie doit succomber en quelques mois à peine à une saloperie de maladie? Qui?
Oui, qui? La lectrice, charmante, d'ailleurs, très bonne, s'appelle Myrtille Bacouche.
Ah,
hein, joli hein, comme prénom.
Oui.
Voilà. Alors, revenons à ce livre « Tu as promis que tu vivrais pour moi » de Karen Pont.
On part d'une prémisse assez triste nette.
Oui.
Effectivement, la mort de la meilleure amie de Molly, Marie, morte à 31 ans. Donc, on part de cette prémisse qui est assez douloureuse, mais en même temps... notre Molly va aller de surprise en surprise en ouvrant les enveloppes. La première, c'était le sapin de Noël. Et la deuxième, Marie lui demande d'aller passer une fin de semaine de ski à Grenoble. Bon, d'accord. Molly n'a jamais fait de ski de sa vie.
Mmh.
Elle sera quand même à Grenoble, où il y a des montagnes.
Ouais.
Et je dis tout de suite, L'autrice nous offre un Grenoble. Ah, j'ai eu vraiment envie d'y aller. En lisant les pages consacrées à Grenoble, ah, ça donne vraiment le goût d'aller faire un petit séjour.
Sur le bord de l'Isère.
Oui, oui. Il y a les montagnes, bien sûr, pas loin.
Oh, oui, mais elles sont même très présentes. C'est la ville qui est la plus enfouie dans les montagnes. Ça veut dire qu'il y a même qu'il y a des gens qui ne pourraient pas vivre, qui ne peuvent pas vivre là, tellement la présence de montagnes qui entoure complètement la ville, c'est impressionnant. Là, je veux dire, c'est ça, ce sont les Alpes. Hein, alors, c'est gros, c'est haut.
Donc, si on compare avec le Mont-Royal, bon, c'est pas grand-chose, le Mont-Royal.
Oui, mais c'est très beau, le Mont-Royal.
Ah oui, c'est très beau.
Et c'est au milieu de la ville, non.
Donc, notre amie Molly sera à Grenoble, et là, non seulement elle n'a pas d'appartement, là, elle part de zéro, là. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'elle remarque? Une petite annonce comme quoi une école de danse cherche une professeure ou un professeur à temps partiel. Alors, elle rencontre le directeur de l'école et ça va marcher. Mm. Mais c'est un travail à temps partiel, donc ça ne pourra pas lui payer l'appartement, là. Alors, elle va devenir serveuse dans une espèce de boulangerie-pâtisserie avec une propriétaire absolument charmante. Et là, elle va s'installer carrément à Grenoble. Mais elle a un copain à Paris. Ah. Germain, lui, il attend, là.
Ben oui.
Eh bien, elle va rompre avec ce cher Germain. Il va trouver ça dur, mais non, le mariage, pas tout de suite.
Bon.
Alors, elle se retrouve donc à Grenoble. Elle est serveuse et professeure de danse avec de jeunes filles, très jeunes filles. Mais dans cette école, enfin, il y a une élève dont le père s'appelle John. Elle va le rencontrer. Ils auront un rendez-vous. Puis bon, une relation amoureuse s'amorce. Et voilà, on s'en va vers l'été tranquillement. Mais ce que je ne dévoilerai pas, c'est qu'il y a comme un retournement de situation à la fin.
Oui.
Ça reste un roman dans la veine feel-good, mais il y a quand même un retournement de situation qui fait que ça met du piquant à l'histoire. Parce qu'on aurait pu s'attendre, oh, c'est prévisible, ils vont, elle rencontre l'homme, le prince charmant, c'est l'amour fou, et voilà, ça s'arrête là. Eh ben non, eh ben non. Il y a un retournement, ça met du piquant, mais ça reste quand même littérature qui fait du bien. Alors,
oui.
il faut vraiment aller jusqu'à la fin. Et moi, quand j'ai réécouté ce livre, je peux faire un aveu, j'avais de gros soucis à ce moment-là. Eh bien, à la fin du roman, ils n'étaient plus là. Ils avaient disparu.
Oh!
Alors,
Gérald!
Je vous dis ça en versant une larme, là, bien sûr. Mais ça a marché pour moi. En tout cas, j'étais heureux. Et même, j'en aurais pris un petit peu plus encore.
Ah! Oui, parce que c'est assez court, quoi. C'est à peu près 5 heures, peut-être, hein, d'écoute.
En termes d'écoute, c'est 6h30.
Bon.
Mais, comme je vous dis, malgré le retournement, le piquant, il y a des tours d'humour aussi.
Oui.
C'est vraiment un bon humour. Le personnage de Molly, là, elle se laisse pas marcher sur les pieds, même si au début, on a l'impression qu'elle est un peu mollassonne. Non, il y a des tours d'humour ici et là, ce qui fait que la lecture est très, très, très agréable. Encore une fois, moi, en tout cas, ça a marché. J'ai embarqué dans l'histoire. Et la deuxième fois, j'ai eu plus de plaisir que la première.
Alors, est-ce que c'est au niveau de quoi, de la littérature, ou parce que vous avez découvert des choses que vous n'aviez pas remarquées la première fois?
Non, c'est qu'au départ, je me méfiais toujours un peu de ce genre littéraire. Dès que je vois qu'on place ça dans la littérature,
feel good,
du bien, là, j'ai tendance à confondre littérature qui fait du bien et fleurs bleues.
Oui, oui.
Mais je trouve qu'on a évité le piège du gnangnan, du fleur bleu, je trouve qu'elle n'y tombe pas.
Mm-hmm.
Par, entre autres, l'humour qu'elle déploie, les touches qu'elle disperse ici et là, je trouve qu'on évite le fleur bleu. Mais en même temps, ça donne férocement le goût de vivre. Et c'est ça que Marie voulait que Molly vive, qu'elle reprenne goût à la vie, qu'elle fasse plus que servir dans une brasserie. Elle sentait que Molly était faite pour autre chose.
Ouais,
et elle va finalement pousser Molly dans ses derniers retranchements. Elle va la pousser à vivre une autre vie. Et juste ça, je pense qu'on peut l'appliquer à soi-même. Il y a bien des gens. Hein. C'est le coup de pied dont elle avait besoin, disons.
Oui, puis c'est joli parce que finalement, elle n'est plus de ce monde, mais en disparaissant, elle permet à cette femme-là de renaître, en quelque part.
Voilà.
Hein?
Elle lui demande littéralement de vivre pour elle deux, de vivre ce qu'elle-même, Marie, ne peut plus vivre, mais elle aimerait vraiment que l'autre, sa meilleure amie, vive des choses qui n'étaient pas prévues, si vous voulez, dans son agenda.
Mm-hmm. Il paraît qu'il y a un moment très attendrissant, c'est lorsqu'elle donne des cours à ses enfants. Elle va les guider, mais autant au niveau de la danse que dans la vie, je crois. Hein,
Oui, parce qu'il y a quelques petites filles là-dedans qui ont des mères, une entre autres qui a une mère terrible. La mère ne voit jamais l'amélioration dans la dans la façon de danser de cette petite fille, t'as tendance à toujours lui reprocher quelque chose. Et là, Molly va se débattre pour organiser un spectacle pour les parents, justement. Et il y a une mère qui va trouver le moyen de critiquer sa fille, même si sa fille, vraiment, s'est appliquée comme un bon petit diable. Alors ça, c'est un passage assez agaçant, mais heureusement, il y a quelqu'un qui va clouer le bec à cette dame. Mais bon, il y a des gens mesquins partout. Hein.
Gérald, avant qu'on se quitte, je vais maintenant, d'ici quelques minutes, parler d'un livre de Jean-Baptiste Andrea, dont vous avez adoré veiller sur elle. Hein. Et, mais est-ce que vous en avez lu d'autres de Jean-Baptiste Andrea?
Oui, j'ai lu entre autres, je crois que j'ai lu celui dont vous avez parlé.
Des Diables et des Saints?
Oui, un autre aussi là, dont le nom m'échappe, mais aïe. Oui, j'ai bien aimé. Moi, je conserve tous les titres de livres que je lis. Et quand je consulte Andrea, pas de livre abandonné. C'est bon signe.
Est-ce que ce serait 100 millions d'années et un jour?
Ça aussi, j'ai trouvé ça assez original. Alors, j'ai bien aimé, oui.
Alors, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, c'est formidable que la maison Lizzie, qui n'en rate pas une, non, mais vraiment, ils sont, et c'est pas de l'opportunisme, ce sont des gens qui sont très à l'affût de tout ça. Et, et bien, rapidement, après qu'il eut gagné le prix Goncourt, ils ont fait appel à la voix de Guillaume Marquet pour enregistrer Des Diables et des Saints, dont je vais parler à cette émission et dont on va écouter un extrait. Alors, je vous remercie encore une fois, Gérald, d'avoir participé à l'émission Des Livres Pleins les Oreilles. Dites-moi en deux mots, vous apparaissez quand et à quel moment sur Ami Télé?
C'est-à-dire que je ne connais jamais les dates parce que c'est toujours enregistré en différé.
Comme chez moi.
Le prochain passage est 9 avril. Normalement, deux ou trois semaines plus tard, c'est diffusé.
Bon,
mais on peut trouver, je pense, d'anciennes émissions dans Internet.
Exactement. Et le cadre, c'est dans quel cadre de
l'émission s'appelle « Ça me regarde ».
Voilà. Donc, qui est maintenant animé par Camille Chet, déjà? Ça y est?
Une nouvelle animatrice.
Voilà. Super. Et qu'on connaît bien ici, à Canalem. je vous souhaite une très belle journée. Et puis, à bientôt, hein, Gérald?
Au plaisir. Merci.
Allez, mais de rien. Salut. Alors, qui est donc d'abord ce Jean-Baptiste Andrea dont je viens d'évoquer le nom avec Gérald Cousineau? Eh bien, c'est un type qui a d'abord fait du cinéma. Bon, il est né en 1971, donc il est encore relativement jeune, hein, le bonhomme. De toute façon, tous ceux qui sont nés après moi sont des jeunes. Et donc, c'est ça. Il a commencé dans le cinéma. Il a même déjà écrit et réalisé des films en anglais comme Dead End en 2003. Il a aussi écrit le scénario en français de La Confrérie des Larmes. Ça, c'était en 2013. C'était avec Jérémy Régnier et Audrey Fleurot. Son premier roman a été publié en 2017 et s'intitulait Marraine. Il a remporté déjà plusieurs prix, dont le prix Fémina des lycéens 2017 et le prix du premier roman de La Forêt des Livres en 2017 également. En 2019, il a publié 100 millions d'années et un jour, dont nous évoquions le titre encore là avec Gérald. Et puis son troisième, c'était en 2021, Des Diables et des Saints, qui a reçu notamment le Grand Prix RTL en 2021. Alors, c'est à Lizzie que l'on doit l'enregistrement de ce livre audio et, je vous rappelle bien sûr, ce prix Goncourt 2023 remporté par Jean-Baptiste Andrea qui s'appelait « Veiller sur elle ». Alors là, nous sommes avec un orphelin, surtout un orphelin d'amour. Et c'est au moment où on fait sa connaissance, d'ailleurs c'est dans l'extrait que vous allez entendre, il est encore jeune, il étudie le piano, il a des parents qui ne sont pas faciles, il a un professeur de piano qui ne jure que par Beethoven, qui est également vraiment dur, un vrai tyran de la musique. Eh bien, on va le retrouver plus tard, et c'est de quoi ce livre est fait, sous les traits d'un vieil homme qui va jouer divinement du Beethoven, contrairement à ce que lui disait son professeur. Et où est-ce qu'il joue, cet homme-là? Sur des pianos publics. On l'appelle Joe, pour Joseph. Vous pouvez le croiser dans une gare ou dans un aéroport. Il gâche, en quelque sorte, son talent de concertiste au milieu de voyageurs qui sont, pour la plupart, bien sûr, indifférents. Il attend, mais qui et pourquoi? Eh bien, sachons tout de suite qu'à l'âge de 16 ans, ses parents et sa sœur disparaissent dans un accident d'avion. Et là, il est envoyé dans un pensionnat religieux des Pyrénées, qui s'appelle les Confins. C'est malheureusement l'ambiance que l'on connaît souvent hein, dans les orphelinats, maltraitance, corvée, etc. Là, il va rencontrer une jeune fille, Rose, mais je ne peux pas tout vous raconter. C'est un roman magnifique, beau comme un do mineur, aurait dit Jo. Voici un extrait de « Des diables et des saints ».
Quelques jours avant ma maladie, sans savoir que nous incubions tous, mon père me fit monter dans son bureau. J'ai eu Rothenberg au téléphone. Il dit que ton dernier cours s'est mal terminé, que tu deviens paresseux, que si ça continue, tu ne passeras pas dans la classe supérieure au conservatoire. Il pense que tu gâches ton talent. Tu as une explication ? J'en avais une. J'avais fumé des lianes avec mon meilleur ami Henri, dans les bois, derrière le manoir de ses parents, plutôt que de faire mes gammes. « Non, je comprends pas. Je travaille dur pourtant. » « Pas assez dur, apparemment. » « Ta mère, ta sœur et moi partirons à Rome, sans toi, ce week-end. Tu en profiteras pour réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie. » Je suppliais mon père. Je suppliais ma mère qui fit la sourde oreille. Elle me colla aussi des devoirs d'histoire dont elle était agrégée. J'en parle avec tendresse aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé ensuite. Des années de pluie noire qui m'ont glacé jusqu'à l'os. Mais ce jour-là, pas question de tendresse. J'ai haï mes parents. Nous habitions en région parisienne. J'allais sur mes 16 ans et je ne manquais de rien. Ma vie sentait le cuir et les orchidées, les parfums de chez Dior, ma vie bien encadrée par le mur de briques de notre propriété. Tout de même, ma maladie, je ne crois pas l'avoir méritée.
Le rythme ! Gueulait Rothenberg. Le rythme !
Le vieux Rothenberg m'enseignait le piano. Il était froissé comme du papier. Visage, cou, main, un braille de rides a donné le vertige. J'avais envie de le repasser chaque fois que je le voyais. Mais quand il jouait, des rois mages se mettaient en chemin. Des princesses exotiques et lointaines étaient prises de langueur dans leur palais de sable. Même Madame Rothenberg, une ombre fanée qui sentait les pétales et la naphtaline, redevenait la reine du midi qu'il avait séduite 60 ans plus tôt, sous un noyer en fleurs. Rothenberg n'enseignait que Beethoven. Dans un passé lointain dont il parlait rarement, le grand homme, qu'il l'appelait par son prénom, lui avait sauvé la vie. Rothenberg avait joué sans instrument ses 32 sonates, jour après jour, les doigts dans l'air, les pieds dans la poussière de Pologne. Il avait joué pour ne pas devenir fou.
Dans l'Andante de la numéro 15, le rythme est essentiel. Tu vois comment elle s'appelle ?
Je me penchais pour lire la partition. Pastorale ?
Ça parle de quoi ?
De bois, de ruisseaux ?
Schmegg. Des bois, des ruisseaux, n'importe quoi. Tu entends cette pulsation à la main gauche ? C'est un type qui les enjambe, tes bois. Il monte sur les épaules de Bach pour voir par-dessus les arbres. Et toi, tu joues ça comme un schmock endormi dans l'herbe après avoir trop mangé. Comme un ivrogne qui cherche une femme dans le bois de Boulogne. Pousse-toi, bon sang, je vais te montrer.
Calme-toi, Alon, lança Madame Rothenberg depuis la cuisine.
« Pense à ce qu'a dit le docteur !»
Il fondit sur le piano sans même s'asseoir. Et je vis des choses que je ne compris que plus tard. Je vis des géants danser. Je vis un aigle piqué, tisser un ourlet bleu à la surface d'un lac. Quand il eut fini, je me mis à crier parce que j'avais eu peur. Peur d'être écrasé, peur d'être emporté.
« À quoi ça sert ?» Je ne jouerai jamais comme ça. Je ne jouerai jamais comme vous.
Rothenberg referma le couvercle du piano, y déroula un apron en macramé, se tourna lentement vers moi. Je crus qu'il allait me gifler, mais il posa doucement sa main de papier sur ma joue. Non. Tu ne joueras jamais comme moi, mon garçon. Mais si ça continue, il y a plus grave. Tu ne joueras jamais comme toi. Je sortis, ivre de ces premières colères de l'adolescence, les poings remplis d'éclairs qu'on lance au petit bonheur, sans savoir que je ne reverrai jamais Alan Rottenberg.
Parce qu'on devine que les parents et la petite sœur, c'est en allant à Rome que l'avion va s'écraser. Mais il a toujours continué de jouer dans les gares et les aéroports et toujours continué de jouer du Beethoven. Gisèle Halimi, qui était Gisèle Halimi, cette brillante avocate tunisienne d'origine qui a rapidement débarqué à Paris où elle a été avocate toute sa vie. Pour vous dire qui c'était, en 71, elle a cofondé avec Simone de Beauvoir le mouvement féministe Choisir la cause des femmes. Elle a milité toute sa vie en faveur de la dépénalisation de l'avortement. Elle nous a offert plusieurs bouquins, dont celui-ci, dont moi je vous offre un extrait, « Le lait de l'oranger ». De Gisèle Halimi, lu par Julie Gaillet.
Je n'aime pas le lait. Le beurre m'écœure et les odeurs de fromage me font presque vomir. En Tunisie, le bol de café au lait matinal, du lait à peine teinté, était considéré comme l'arme absolue contre toutes les maladies. Mes parents, pour m'en convaincre, avaient tout essayé. Les engueulades maison, menaces, invocations de Dieu, gesticulations vers le ciel, les gifles, les privations de sortie, les promesses, enfin. Nous en étions au vil marché. Si tu bois ton lait, tu auras 2 francs par semaine. Oh, tentation! Comment résister? Je voulais aller au cinéma et acheter les albums de Bico dont je me délectais. Mais je continuais de détester le lait. Cet élixir miraculeux qui seul fait grandir. Nous savions depuis toujours que la soupe ne profite qu'aux Français, comme d'ailleurs la légende de nos ancêtres, les Gaulois. Un jour béni, je trouvais la solution. Dans notre petit jardinet de la Goulette, en son milieu, poussait un oranger. Ou, plus exactement, il ne poussait pas. Malgré tous nos efforts et tous mes soins, je l'arrosais, creusais la terre avec ma petite pelle de plage pour y mettre de la cendre, lustrais ses feuilles avec un chiffon humide pour qu'elle emmagasine l'oxygène. Rien n'y faisait. Je me morfondais à son pied, lui murmurais mon inquiétude, le suppliais de prendre quelques centimètres, 1 ou 2, pas plus. Je passais des heures auprès de lui, le caressais, le regardais, peine perdue. Il présentait toujours cette forme ridicule d'arbre avorté. Petit, trapu, feuillu, sans grâce et sans fruits. Pas une orange, jamais. Pas même ces fleurs bourgeons, blanches et si capiteuses. Un arbre sec, un nain pour l'éternité. Ce jour-là, mon bol à la main, je vais vers lui. Il faut faire vite. Je regarde derrière moi, en haut, vers les fenêtres, personne. Je verse le lait au pied de l'arbre et m'en retourne, étonné par tant de facilité. Opération 100% réussie, 100% à profit. Je ne bois pas ce lait qui me soulève le cœur, j'en transmets les vertus à mon oranger qui va enfin grandir et je m'enrichis toutes les semaines. Ajoutez à cela que mes parents me fichaient la paix et s'extasiaient sur ma bonne mine. « Le lait, rien de tel !» répétait Édouard avec satisfaction. « Mais tant va le lait à l'oranger !» Édouard et Fortuné finirent par être intrigués. J'ingurgitais le breuvage magique avec une telle rapidité. De plus, je dissimulais mal ma satisfaction. Un matin, ils me guettèrent, cachés derrière les volets, quand je revins à la cuisine et posai mon bol vide avec le « ça y est, j'ai fini !» habituel. Édouard me balança une paire de gifles gratinées. « Tu t'es foutu de nous !» plus quelques injures en arabe. « Fille du péché, petite menteuse !» etc. comme à l'ordinaire. Une répression modérée. Moi, la préférée d'Édouard, ainsi que le rappelait souvent ma mère, je bénéficiais de tarifs privilégiés. L'incident ne m'affecta guère. Je ne bus de lait qu'à dose homéopathique sous les yeux devenus vigilants de Fortuné et me livrais avec ce talent de l'enfance à la comédie des nausées, des hoquets, des malaises. Je traînais surtout une grande tristesse. Mon orangé bien-aimé ne prit pas un millimètre. Il mourut sous le bombardement des forteresses volantes américaines en 1943, sans avoir jamais éclaboussé le soleil de ses fruits vermillons, sans s'être éclaté vers le ciel en cette fleur gigantesque, vert brillant et blanc de velours. Le lait de l'oranger ne produisit pas de miracle, parce que les orangers n'aiment pas le lait. Ils aiment la terre tendre, l'eau pure et le soleil. Et surtout, ne développent de solides racines et ne se chargent de fruits que nourris de leur vérité. Les hommes sont comme les orangers. Il leur faut choisir ce qui les aide à vivre, ce qui les épanouit. Fillette, je ne le savais pas encore. Je n'aimais pas le lait et je détestais la contrainte, mais je croyais juste de l'imposer à l'arbre qui m'était si cher. La vie entre les gens, l'histoire entre les peuples, sont faites de ces contradictions, se font à travers ces contradictions.
Extrait de « Le lait de l'oranger » de Gisèle Halimi, lu par Julie Gaillet. Gisèle Halimi, c'est lorsqu'elle a perdu son papa qu'elle avait écrit ce texte, histoire de dire ce qui n'avait pas été dit, précisait-elle après la parution de ce bouquin. Et c'est ainsi que se referme cette nouvelle édition de l'émission « Des livres plein les oreilles ». Merci à vous d'être présents, merci à Mathieu d'être présent en régie et merci à Gérald de nous offrir ses chroniques. C'est Clotilde Saye qui vous dit à la semaine prochaine. Salut.